À travers cette émission, nous relions nos manières de vivre, d'entendre et de voir le confinement. Voilà maintenant 4 semaines que nous sommes isolés. Difficile de faire la différence entre des vacances et ce qui n'en est pas, entre les premières et les dernières nécessités, entre le sport et la balade, entre le temporaire et le permanent. Le virus semble faire partie de nos vies pour un moment. Il paraît que le pire est passé, mais est-ce que le meilleur est à venir? Parce que le virus ne se transmet pas par les oreilles, l'équipe de Radio Tilleul vous raconte ici sa 4e semaine de confinement à travers les traces vocales qu'elle se partage. Voix d'un isolement, épisode 4. À Skip, le masque est à la mode.
Corona égale confinement. Confinement égale confiné. Pour Macron, on joue au Uno. Après le plus 2, il nous faut un plus 4. Il y a des mecs qui sortent dehors inconsciemment. Le confinement est juste un CDI. Sans attestation, t'as du culot. Crois-moi, ce virus, on va le battre.
C'est pas très original, hein. Je lis. Je fais des gâteaux, mais des bons gâteaux. Tarte, citron meringué, cookies, brownies. J'ai fait quoi d'autre? Enfin, j'en ai fait plein. Moi, ce que je peux conseiller, c'est de faire du bowling avec du PQ. Vous prenez du PQ, vous faites une sorte de pyramide. Vous prenez un PQ pour faire la boule de bowling. Vous prenez une feuille, vous jouez avec vos amis, vous comptez les points et c'est grave. Grave sympa et c'est convivial en plus en famille.
En vrai, moi j'ai pas d'activité. Hein. Enfin, depuis le début du confinement, c'est PS4, YouTube, Netflix, donc c'est toujours la même chose. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres trucs à faire.
C'est comment pour exprimer ton mécontentement puisque t'es obligé de rester chez toi? Tu peux pas faire de manif? Tu peux écrire sur le compte Twitter de Macron à la rigueur, ça va servir à quoi? Genre trop impuissant là, c'est un truc de ouf. On peut rien faire, oui, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, ce qu'ils veulent pour le bien de la nation, comme ils l'entendent, mais je sais pas.
Bah, en vrai, genre, moi, je pense qu'on devrait les interdire, les résidences secondaires. Parce que, bah, il y a plein de gens, ils se sont barrés et tout, genre, à la campagne, dans leur résidence secondaire. Sauf que, s'ils l'ont, le virus, il va se propager encore plus, il va se propager là-bas, il y en aura encore plus de partout. Enfin, genre, tu vois, vous avez compris. Donc en vrai, moi je pense qu'on devrait interdire les résidences secondaires et tout le monde reste chez soi là où il était quand le confinement s'est déclenché et c'est tout.
Les personnes qui ont une résidence secondaire, ils peuvent aller y habiter, mais à partir du moment où ils y sont, ils peuvent plus bouger en fait. Ils peuvent plus retourner dans leur habitation principale. Du coup, bah au final, ça change pas grand chose quoi. Voilà.
C'est que tu sais, il y a plein de stars et tout qui se filment en disant « Ouais, le truc avec ce virus, c'est que bah, on est tous égaux, qu'on soit riches ou pauvres et tout, nanana. » Sauf que non, puisque aux États-Unis, il y a plus d'Afro-Américains qui meurent que de Blancs, parce qu'ils sont plus pauvres statistiquement. Et que là, bah, tu vois, ouais, il y a des gens qui ont peut-être des bêtes d'appart, mais que ça leur suffit pas. Du coup, ils se disent « Ah, bah, on va aller dans notre maison, je sais pas où, tu vois. » À la mer, et ils peuvent y aller. Tant mieux pour eux, tu vois. Moi, j'aimerais bien avoir une petite résidence secondaire et tout. Je me suis déjà heureuse d'avoir un toit, mais c'est bien, encore une fois, la preuve qu'on n'est pas tous égaux face au virus, puisqu'il y a des gens qui ont deux maisons et d'autres qui n'ont pas du tout de maison, tu vois. Donc, en fait, on parle du virus à chaque fois, mais on le sait depuis toujours qu'on n'est pas égaux. C'est pas nouveau, ça, mais bon. Il y a des gens qui en profitent pour essayer de dire que toute l'humanité est traitée d'égal à égal face à ce virus. Surtout même d'un pays à un autre, tu vois que non. D'une ville à l'autre, tu vois que non. Enfin bon.
On s'habitue de rester chez nous, d'avoir ce rythme particulier. Mais pour moi, personnellement, c'est impossible que je fasse un confinement permanent. Parce que déjà, j'en peux plus. Ben, un peu moralement aussi, parce que ça devient long, là, au bout de 3 semaines, de pas pouvoir voir ses proches, ses amis, sortir avec les beaux temps.
Il y a par exemple, des conditions climatiques auxquelles l'humain ne pourrait pas s'adapter. Mais une condition de vie en confinement, c'est totalement possible et plausible. On voit qu'il y a des gens qui meurent enfermés chez eux après ne pas être sortis pendant plusieurs semaines d'affilée. Et qui s'y était très bien accommodé. T'as déjà une bonne poignée de personnes dans le monde qui vit en confinement total presque H24. Donc pour moi, oui, ce serait totalement possible. Mais l'humain ne peut pas s'adapter à tout, clairement.
Je pense pas, enfin non, même c'est sûr en fait, hein, je pourrais pas rester en confinement parce que là déjà, je sais pas, on a combien de jours, je crois qu'on est à quasiment un mois de confinement et c'est compliqué. Mentalement, ça va pas, enfin, je pète des câbles un peu tous les jours en fait, je vais pas te mentir, de pas sortir de chez moi, pas voir mes amis, pas voir voilà, ceux avec qui j'avais l'habitude d'être. Donc pour moi, une vie en confinement permanent, non, c'est pas envisageable du tout.
Enfin, moi, j'ai l'impression que chaque semaine, c'est la première semaine, tu vois. Parce qu'il y a un nouveau, un qui se passe. Et voilà, bah, c'est mou, quoi. C'est mou du genou. Et du coup, je pense pas qu'on pourrait s'habituer à une vie en confinement parce qu'on a trop besoin d'aller dehors, de pouvoir se dire que si à telle heure, on a envie de sortir, et ben on sort. De pouvoir aller voir des amis, la famille. Enfin, de pouvoir faire sa life, quoi, et pas juste de se dire « Ah, ok, cette semaine, bah, je vais sortir une fois, aller faire un petit tour dehors autour de mon patelin, enfin, c'est pas une vie, quoi. » Enfin, il y a peut-être des gens à qui ça peut convenir, mais en tout cas, moi, ça me convient pas.
J'oublie pas du tout qu'est-ce que c'est la liberté, enfin, ce qu'est la liberté, et bah, j'ai hâte de la retrouver. Voilà.
Le traçage numérique des personnes suspectées d'être infectées qui se ferait à travers nos smartphones. C'est une politique qui a été appliquée en Corée du Sud où les autorités traquent les déplacements récents de la population en croisant les données GPS des smartphones, les caméras de vidéosurveillance et les informations bancaires. Alors tout ça, aujourd'hui, ce serait complètement illégal en France, mais très récemment, dans un entretien accordé au journal Le Monde, le secrétaire d'État au numérique Cédric O a déclaré que le gouvernement était en train de travailler sur une application qui s'appelle Stop Covid et qui est basée sur le volontariat. Cette application, que le gouvernement aujourd'hui n'est pas sûr de sortir, se baserait sur la technologie Bluetooth et permettrait en fait de savoir si on a été en contact avec une personne infectée qui a elle aussi l'application. Et c'est quelque chose, comme vous l'imaginez, qui fait beaucoup de débat.
Il trace par téléphone les déplacements des gens et du coup, en fait, de là, si quelqu'un est contaminé, bah, ils savent par où il est passé et quelle personne il a rencontré durant... Bah, 6 journées et tout, mais en fait ça facilite carrément le travail en fait. Et après pour ce qui est liberté individuelle et voilà quoi, la vie privée et tout, bah je pense que la liberté elle est très importante et tout, etc. Mais en fait la personne à qui ça pose problème, ce truc, c'est qu'elle a quelque chose à cacher, quelque chose qu'elle ne veut pas forcément dire. Si on est obligé d'enfreindre un petit peu sur la vie privée des gens pour sauver... Voilà, il faut toujours... Enfin, voilà, il faut pas penser qu'à sa propre personne, ça revient toujours au même. Il faut voir plus grand. Ouais, bah, il y a des gens, ils pourront voir ce que je fais, où je vais et tout. Mais d'un côté, c'est pour quelque chose de bien, tu vois. C'est quand même hyper léger. Hein. L'application, elle permet juste de savoir avec quelle personne tu as été en contact, à la rigueur, quel trajet as-tu fait, voilà, ou par où tu es passé dans la ville, etc. C'est pas non plus un truc, une caméra chez toi qui regarde chaque mouvement dans ta chambre. Enfin voilà, c'est pas non plus hyper intrusif. Ça reste quand même soft. Enfin, je sais pas si on peut l'avoir, la confiance, mais... dans ce cas-là, il faudrait l'avoir, c'est-à-dire que les données qui sont du coup un peu volées, voilà quoi, eh ben, il faudrait qu'elles soient hyper sécurisées, qu'elles ne se transmettent pas, qu'elles soient confidentielles, que seulement les gens qui travaillent dans ce domaine-là peuvent les voir, qu'elles ne fuiteront pas, etc. Il y a tout un truc derrière qu'il faut mettre en place pour la sécurité et tout, enfin pour voilà quoi, la sécurité des données et tout.
C'est un moyen de permettre de voir qui est touché du virus et de pouvoir vite traiter les personnes atteintes pour pouvoir vite passer à autre chose. Donc moi je pense que c'est bien, après voilà, il faut être prudent. Et niveau sécurité, c'est peut-être pas le meilleur et on n'est pas au top.
A priori, les tests, il n'y en a pas assez pour en faire sur toute la population française. Donc du coup, à partir du moment où on a été en contact de personnes infectées, bah, on met sur l'application a priori et au moins bah, ça nous localise. Donc ça peut être pas mal honnêtement.
Mais du coup, c'est chaud parce qu'il y a plein de gens et tout d'intellectuels machin, qui disent que ok, ça peut servir et tout. Sauf que c'est certainement un outil dont on va se servir après. Genre, ils disaient qu'ils allaient s'en servir, qu'ils allaient justifier l'usage des données GPS et tout des gens pour, je sais pas, la délinquance, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est tendu parce que sous prétexte que c'est pour notre sécurité, notre santé et tout, eh ben, y a des choses qui vont passer et qu'on n'accepterait pas en temps normal. Genre être tracé, en fait.
Le masque est à la mode. Enfin, un mode, c'est un bien grand mot.
Les masques faits main, c'est bon, il y en a, ils sont beaux, il y en a, ils sont moches. Et les beaux, ils passent. Et sinon, ouais. Et après, il y a des masques voilà, en tissu qui existaient déjà avant. Ben, je sais pas, c'est une mode un peu. Ça va être un peu la mode internationale, mondiale.
Même moi, j'ai un masque. Bon, c'est du tissu, mais genre, j'ai un masque à la maison là où. Où il y a un truc affiché dessus, enfin, c'est un truc un peu à la mode, mais pas trop, t'as capté, genre, il y a des gens qui en portent et ça fait un peu leur, comment dire, leur marque, tu vois, ce qui fait qu'ils sont quelqu'un d'autre. Du coup, ouais, si jamais ça devient une marque de fabrique, un truc, ça peut être sympa, en fait. Ça peut être sympa de, ouais, de partir d'un quelque chose qui n'est pas forcément joyeux pour en faire quelque chose de tendance, ça peut être cool. Bon, après, je pense que les mecs, ils auront pas jusqu'à se mettre des cotons-tiges dans le nez pour être tendance, tu vois. Mais ouais, ça peut être cool d'avoir des masques en tissu et voir porter des gens dans la rue. Non, franchement, ça peut être un bon truc niveau mode. Et puis, tout le monde le sait, hein, mais à partir du moment où il y a une mode qui sort, enfin, une nouvelle mode qui commence à s'installer dans le monde, il y a des grosses marques qui commencent à les reprendre. Là, tu verras que c'est bien, bien installé dans le monde. Et de toute manière, on envoie des nouvelles modes, on envoie de tous les côtés, hein. Il n'y a pas longtemps, je ne sais plus c'était quand, mais en gros, la mode, c'était de se mettre un pansement sur le pif. Ça ne sert à rien, mais voilà, les gens, ils l'ont fait. Maintenant, je pense que les masques, ça durera un peu plus longtemps parce que c'est quand même dans nos têtes. C'est quand même un truc, a priori, qui sera gravé dans le. Enfin, qui sera dans les manuscrits, n'importe quoi, dans les livres d'histoire des lycéens et des collégiens, un skip.
Mediapart a révélé hier dans un article qui a eu un très grand retentissement la gestion chaotique par le gouvernement de la question des masques qui manquent aujourd'hui cruellement aux soignants mais aussi à la population. Et cet article parlait aussi des mensonges officiels qui ont accompagné cette question des masques.
Par rapport aux masques, il y a un énorme problème parce que effectivement, il y a quelques semaines, on nous disait faut pas vous en procurer, clairement ça servira à rien, laissez-les aux professionnels, etc. Ok. Et maintenant, on nous dit, c'est très recommandé, voire obligatoire dans certaines communes. Donc déjà, bah, je pense que ça peut un peu briser la confiance qu'il y a entre le peuple et les gérants du pays. Parce qu'ils disent des informations contradictoires et que du coup, on n'a plus envie de les croire. Clairement, c'est un énorme problème dans cette gestion de crise. De plus, ces informations ne sont pas données clairement. Certes, ils nous redirigent vers des sites, etc. Mais les informations qu'il y a à la télévision, ce qui est le plus regardé, surtout en ce moment, généralement, c'est les choses classiques qu'on entend pendant tout le confinement. Le blabla habituel des chaînes d'information en continu. Du coup, c'est pas intéressant. Dans certaines communes, par contre, le fait qu'on oblige de porter des masques. Si c'est des masques chirurgicaux, y a un petit problème parce que les professionnels en ont bien plus besoin. Juste leur dire qu'il faudrait qu'ils prennent des écharpes, des foulards, ce serait déjà ultra important. Personnellement, je trouve que la crise a vraiment été mal gérée, surtout au début. Qu'il aurait fallu plus d'informations, qu'il aurait fallu qu'ils nous disent pas des informations contradictoires. On nous avait dit qu'on avait réquisitionné des tonnes et des tonnes de masques, hein. Mais on n'en voit pas le bout. Et je pense que le fait que les masques, la pénurie de masques ait été mal gérée, ça a contribué un peu au massacre, si vous voyez ce que je veux dire.
C'est pas une guerre, c'est un problème qui nous dépasse. J'ai une toux grasse et le nez bouché, c'est peut-être un gros rhume. C'est pas un mètre, c'est un fossé qui nous sépare. Plus qu'un fossé, moi je dirais plutôt que c'est une fosse commune. Leurs commentaires, c'est peut-être le pire des effets secondaires. Si la télé me dit comment faire, moi je vais faire le contraire. Tous les regards me tirent dessus et cette galère me plaire.
moi je suis pas du même avis que tout le monde, je pense que ça protège pas. Juste c'est une manière de rassurer les gens et de se dire que bah peut-être en protégeant leur bouche ils seront protégés et peut-être même immunisés, mais je pense pas.
Je suis dans la parano totale, je crois complètement à la théorie du complot et tout ça. Pour moi, de mon point de vue, ce virus arrive pile au bon moment, il y avait la réforme des retraites. Alors c'est un peu méchant, mais c'est vrai que du coup, bah, étant donné que ce virus attaque les plus démunis et les personnes en âge avancé, bah, c'est vrai que du coup, bah, la réforme sur les retraites n'est plus un problème, vu qu'ils ont tous y passé. Hein, c'est un peu le message caché de cette maladie pour moi. Enfin, l'État a mis des amendes de 135 euros par rapport aux attestations, par rapport aux sorties et tout ça. Donc du coup, ils ont ramassé déjà un bon petit pactole. Puis l'État n'a pas besoin d'un remède très peu coûtant, parce que bah, ça nuirait à l'économie française. Donc du coup, il faut trouver un remède très cher qui aura fallu des heures et des heures de travail et tout ça. Et quand tu y réfléchis un peu plus et que tu en parles avec certains, les autres te disent « Mais oui, mais moi aussi, je le pense. » Et donc du coup, plus tu en parles et plus tu trouves de gens qui pensent aussi cette théorie du complot. Voilà. C'est ce que je pense aussi, du coup.
Bah, je trouve que c'est dangereux, en fait, la théorie du complot. Parce que si tu dis que c'est tout ça, là, le Covid, c'est un coup monté, machin, du coup, tu crois plus personne et tu fais plus rien. Et non, faut pas. Enfin, je pense pas qu'il faille penser ça. Parce que du coup, si tu penses que c'est un complot, le truc, il est perdu d'avance, quoi. Parce que si l'État est capable de faire un truc pareil, tu vas te dire, mais c'est pas possible, on pourra jamais. Jamais changer les choses et tout, ils sont capables de faire des choses pareilles pour nous sucrer nos droits. Donc je pense que c'est merdique et qu'il faut pas tomber là-dedans et qu'il faut se dire qu'on a quand même des pouvoirs, tu vois, minimum. Parce que sinon, bah c'est perdu en fait. Du coup, non, il faut se dire que non, c'est juste de la biologie du hasard et des choses comme ça, là. Si tout le monde pense que t'as un gros complot et que, je sais pas, c'est les Illuminati ou je ne sais quoi, bah c'est chaud, parce que ça veut dire que personne fera bouger les choses, ou alors les gens vont se battre contre les Illuminati et pas contre, je sais pas, la mondialisation, le capitalisme et tout ça, et le gouvernement tel qu'il est aujourd'hui. Du coup, bah c'est pété.
C'était le 4e épisode de Voix d'un isolement. Cette semaine, nous avons entendu les voix d'Esteban, Inès, Pauline, Mathéo, Nathan, Junaïd, Anna Lali et Daniel.
Et bien sûr, Charlotte était à la présentation.
La musique d'ambiance a été réalisée par Daniel. Vous pouvez retrouver les émissions de Radio Tilleul sur mjctilleul.fr ou sur votre plateforme de podcast. On se retrouve la semaine prochaine.